Chapitre 70. Pour lui éviter d'avoir à marcher, même si elle en est tout à fait capable, j'ai proposé à ma logeuse de la déposer dans le bourg. Durant les quelques kilomètres parcourus ensemble, Madame Le Goff m'a posé des questions à un rythme de plus en plus soutenu. Nous étions à peine installés que la première est venue timidement, puis voyant que je répondais sans réticence, elle y est allée en rafale. Ma pauvre expérience des femmes m'aura au moins permis de comprendre ce mécanisme-là. Elle a multiplié les interrogations pour savoir à qui elle avait affaire. Là où un homme m'aurait demandé dans quelle branche j'exerce, quelle sorte de travail nécessite une retraite aussi calme, elle ne m'a sondé que sur des points personnels. Marié, des enfants, parents en bonne santé, de la famille dans les environs? Je n'ai cette fois pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. En répondant à cet interrogatoire basique, direct, j'ai finalement dessiné un portrait très synthétique de ce que je suis et que le tourbillon du quotidien ne me permet pas d'appréhender avec autant de pragmatisme. Elle m'a pour sa part raconté ses grands-enfants, sa mère décédée récemment, son mari qui vieillit, ses rhumatismes, avec bien plus de détails que je n'en peux retenir. La différence entre la façon qu'ont les femmes et les hommes d'aborder un inconnu se précise encore un peu plus. Les hommes se montrent sans doute plus techniques, plus fonctionnels. Ils cherchent à évaluer le pouvoir de leur interlocuteur. Du côté des femmes, l'approche semble souvent plus affective. Seul ce qui touche le cœur les intéresse vraiment. Mais les généralités sont réductrices. Cassandra m'aurait demandé combien je gagnais. Quand je reviens du bourg, l'ambiance de la côte a déjà évolué. Le vent est tombé, le quartier de lune descendante est visible au-dessus de la maison. La mer est presque haute. Une fois le moteur coupé, l'impression d'être au bout du monde s'impose. Le ressac rythme le temps. Même si les autres habitations sont théoriquement inoccupées, je m'assure que personne ne m'observe avant d'ouvrir mon coffre. J'attrape mon sac, mes bottes et ma pelle. Le parfait attirail de celui qui veut faire disparaître un corps ou chasser un trésor. Dans les deux cas, autant être discret. Pas envie de perdre de temps. Tant que le crépuscule ne s'est pas encore transformé en nuit, je jette mes affaires dans la maison et je repars aussitôt en exploration avec ma lampe torche. Je traverse le jardin. Depuis un rocher en surplomb, j'arrive à sauter par-dessus le grillage de la propriété voisine. C'est désormais sur une page de mon histoire que je marche. C'est sur ce sol que nous avions passé nos vacances, voilà un peu plus de 20 ans. Les dernières, avant que nos vies ne basculent. La terrasse n'a pas changé, avec sa rose des vents de granit rose et gris. C'est sur cette étoile que Julien peinait à faire du vélo en cercle. Elle était plus grande dans mon souvenir. La mémoire ne retient jamais un lieu sans le teinter des émotions qui sont associées à sa découverte. L'escalier de quelques marches descend toujours vers le jardin. L'espace verdoyant tient davantage de la lande que du parc. Voulant éviter d'être repéré et pris pour un cambrioleur, je ne m'attarde pas autour de la bâtisse, d'autant que le jour décline. Mon objectif se dresse un peu plus loin. Un imposant massif rocheux à l'extrémité nord du terrain. Je me souviens très bien que Julien et moi y passions des heures, escaladant, sautant, testant notre vertige. Nous avions apprécié le luxe d'avoir ce formidable terrain de jeu rien que pour nous, un véritable parc d'attractions personnel qui ne fermait jamais. Pas besoin de le partager, nous bénéficions seuls de ce décor digne d'un film d'aventure. Même s'il reste impressionnant, il me paraissait lui aussi plus vaste à l'époque. Les hautes herbes séchées par l'hiver forment un obstacle à travers lequel je progresse en essayant de faire le moins de bruit possible. Je tente de situer la parcelle à fouiller en fonction de la vue sur la mer et de la maison, mais la végétation a bien changé et mon souvenir est plus qu'approximatif. C'est mon père qui avait choisi l'endroit où enterrer notre boîte. Je m'efforce de raisonner comme il avait pu le faire avec ses deux marmots pendus à ses basques. Quelle serait la planque idéale? un repli dans la roche, avec tout de même suffisamment de terre pour enfouir notre lettre au futur, là où ceux qui viendraient ensuite auraient peu de chances d'être amenés à retourner le sol. La nuit qui tombe rapidement ne m'aide pas. J'allume ma lampe pour inspecter les abords. Plusieurs endroits me paraissent remplis à les critères. Songez que papa s'est posé exactement les mêmes questions à cet endroit précis, me remue. Si Julien n'avait pas évoqué ses dessins enterrés, j'ignore même si j'y aurais repensé un jour. Étrange méandre d'une mémoire qui ne nous dit pas tout. Je m'attarde sur un emplacement possible. Je m'agenouille et étudie le sol. De façon irrationnelle, comme un sorcier, je fais planer ma main au-dessus pour essayer de sentir si nos dessins sont là, ensevelis. Quelle chance y a-t-il pour qu'ils soient encore dans leur capsule et que je les retrouve? La nuit est désormais trop sombre pour me permettre d'obtenir une réponse dans l'immédiat. Je reviendrai demain, le plus tôt possible pour ne pas risquer de me faire surprendre. Au moment où je me relève, il me semble soudain entendre une respiration. J'éteins ma lampe et me baisse. Tapis dans les herbes sèches, j'écoute. À l'évidence, une présence évolue à proximité. Un frisson me traverse. Tous les sens en éveil, je scrute les abords, mais ma position dans le repli rocheux restreint mon champ d'observation. Le frémissement dans la friche se rapproche. Quelqu'un vient, probablement sur la pointe des pieds. Cette fois, il n'y a pas de match entre la peur et l'envie. Seulement l'angoisse de me faire prendre là où je ne suis pas légitime. Le bruissement se fait plus net. La réverbération de l'onde sonore sur la roche qui m'entoure en fausse la localisation. Je ne suis pas certain de la provenance du son. Je ne distingue rien dans la nuit. Si ça se trouve, le type est en train de ramper. Que projette-t-il de faire? Je ne vais pas attendre de me faire tirer dessus par quelqu'un qui défendrait son bien. Je prends l'initiative. Bonsoir, ne vous en faites pas, je ne fais que visiter. Je suis locataire chez Madame Le Goff. Je suis venu ici quand j'étais enfant. Pas de réponse, mais les pas accélèrent dans ma direction. Je serre les poings, prêt à me défendre. C'est alors que je tombe nez à nez avec un chien. Une sorte de berger, pas énorme, mais terriblement vif. Ses yeux luisent dans le clair de lune. Et si je lui chantais une berceuse ?